France Inter.
C'est parti. Fébrile. Bonjour et bienvenue dans Pastèque, je suis Tanguy Pastureau, mais évidemment je ne suis pas seul pour ces inédits, je suis avec Alex Vizorek. Bonjour Alex.
Bonjour Tanguy Pastureau.
Comment
mais nous ne sommes pas seuls.
Non.
Car dans des inédits aussi nous avons Lulu.
Mais
bonjour
oui.
Lulu.
Bonjour.
Mais vous n'avez rien à foutre aujourd'hui.
C'est vrai.
On n'a pas réussi à s'en débarrasser.
Et nous-mêmes on va écouter des inédits,
oui.
C'est un peu les meilleurs moments, les florilèges, les spéciales, parce qu'on enregistre sur Twitch. D'ailleurs abonnez-vous à la chaîne Twitch de France Inter pour dès jeudi prochain 11h être aux enregistrements. Et puis il faut faire des choix pour l'émission qui ne dure que 35-40 minutes le samedi soir.
Donc on laisse beaucoup de choses de côté.
Exactement.
Et dans ces choses de côté, il y a beaucoup de choses qui sont bien.
Parfois.
Mais oui.
Et donc c'est l'occasion de les écouter. Mais on remet tout dans le même ordre, à commencer par...
Et bah le top de l'actu.
Tellement ça.
Ah, c'est tout.
Pastèque, Pastureau, Vizorek sur France Inter.
Alex, je crois que vous avez une petite pépite pour nous.
Ça s'est passé en Dordogne.
Flûte.
Vous savez, on a parlé beaucoup de feux de forêt cette
malheureusement,
semaine.
Oui.
Malheureusement, Gérald Darmanin. Oui, alors malheureusement, quand voilà, c'est la nature, c'est les pyromanes, et puis parfois c'est la malchance.
Ah.
Dordogne, deux points, un vacancier fait caca dans les bois. Et... oui, mais je vous. C'est alors, ça sert à rien, c'est sur France Bleu. C'est le titre de France Bleu. Hein.
Il y a caca.
Bah oui, on est tous un peu comme ça.
J'ai 12 ans.
Il y a
coup,
des gens qui ont réfléchi pour écrire le titre. Ils ne sont pas dit se soulager. Ils ont dit c'est mieux de peut-être faire caca, c'est plus clair. Et provoque un début d'incendie en voulant effacer ses traces. Ça partait dans mon sentiment, si vous voulez.
T'as faim à m'expliquer ça.
Alors, c'est un vacancier d'une quarantaine d'années qui fait un petit pique-nique dans les bois. Puis bon, voilà, petit pique-nique, on prend un petit café à la fin. On se dit, ah, il faut remarcher peut-être jusqu'à la voiture. Prenons nos dispositions maintenant.
Mmh.
C'est vrai que dans les bois, bon, bah, je sais pas, il fait une quinzaine de mètres et il va se trouver un bel arbre bien large et il se positionne derrière et il nous fait sa petite commission. Et c'est là qu'il se dit, parce que bon, il est propre le garçon, il se dit, je vais prendre un mouchoir en papier, je sais pas, et donc voilà, il se frotte. Les fesses.
Merci de nous apprendre comment faire.
Voilà, non, mais je le dis, c'est service public. Et il se dit, bon, il a voulu être propre. Et c'est là qu'il s'est retrouvé dans la merde, je dirais. car il s'est dit, je vais le brûler, ce petit papier, parce que ça n'a pas de sens de laisser un papier quand même. C'est sale, fatalement. Et il n'a pas maîtrisé. Sans doute qu'il avait dû faire la petite commission aussi. Donc quand le papier a commencé à brûler, il s'est dit, bah, tiens, je vais peut-être... Et puis il n'y avait plus. Et donc, c'est parti en torche, mon pote.
Mais non, mais
2000 mètres carrés de broussailles et de pain. Je ris, mais c'est pas drôle. Tout ça parce que, bah, du coup, le papier, bah, mais même le caca, à mon avis, on a plus de traces non plus.
Mais est-ce que Franck Epieto, qui doit avoir fait ça un jour dans la nature, va nous en parler?
Genre, on va regarder TPMP
ce
soir. Spécialiste.
Ça, ce serait intéressant.
Spécialiste en défécation.
Bon, dans les bois.
Note qu'on est directeur des programmes de C8. Bah, on a des petites compétences à ce sujet, je me dis.
Et puis, on se retrouve un moment dans les bois, comme tout le monde.
On se retrouve
ces gens sont des êtres humains.
Et donc, très vite, le gars, quand même, il s'est dit, faut que je prévienne, parce que... Et donc, il a appelé les gendarmes et les pompiers. Mais c'est vrai que c'est d'être compliqué à expliquer. Excusez-moi, il y a des flammes à cause de mon cul. Le mec lui dit, bah, vous savez quoi, vous allez chez Patrick Sébastien dans le plus grand cabaret, parce qu'on va vous trouver directement
une place. Mais ça n'existe plus, malheureusement.
Oui.
Tous ces gens sont au chômage aujourd'hui.
Et donc, il a pris quand même une amende de 135 euros.
Je pense que
ça méritait mieux, mais...
Ouais.
Oui. Oui.
Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre
Vous vous souvenez certainement de Jean-Michel Blanquer, notre champion.
Il nous manque peut-être.
Ben non, il nous manque pas.
Ah.
Parce qu'en fait, il a fait une réforme à la con qui voulait que le bac allait désormais se dérouler en mars. Voilà. Donc,
c'était un beau mois de mars pour le bac.
Voilà, année. Voilà.
Oui.
Donc en fait, il a réussi, lui, à décaler l'été en avril. C'est-à-dire qu'il a la même fonction de le réchauffement climatique, ce mec, quand même. Parce que où est le problème? C'est-à-dire qu'une fois que les jeunes, les terminales, ont passé leurs épreuves principales, parce que ce sont des épreuves de spécialité, donc ce sont celles qui comptent le plus.
Oui,
moi, quand j'étais en littéraire, par exemple, la philo, c'était, je crois, coefficient 5 ou 6. Délirant.
Combien vous avez fait au bac philo?
Nul. J'avais 16 toute l'année, j'ai fait 9. Ah non, mais une horreur. Je ne comprends pas.
Ça sent soit un peu c'est dans mon chronique, prof, excusez-moi de le dire.
Soit c'était mon prof qui m'aimait particulièrement et il me surnotait, soit j'étais sous-noté au bac, je ne sais pas ce qui s'est passé.
C'était quoi votre philosophe de référence pour le bac?
Je ne sais plus du tout.
Ah ben voilà, mais
regardez, moi, j'ai eu 15.
C'est tellement loin.
Ah, voyez.
J'ai eu 15.
Elle a eu 15.
Sur un sujet sur l'histoire.
Bon, c'est très bien. Toujours est-il que...
Merci.
Toujours est-il que les élèves de terminale ont déjà reçu leur note de spécialité au bac, et donc certains savent déjà qu'ils auront leur diplôme. Donc forcément,
mais oui, qu'est-ce c'est pas motivant.
Eh ben, ils viennent plus. Il n'y a plus personne à l'école. Il y a un quart des effectifs qui sont déjà barrés. Mais si, alors les profs pleurent. Ils pleurent toutes les larmes de leur corps.
Ils ont moins de monde dans leur classe.
Mais oui, mais ils sont pas contents. Oui, mais... Parce que être prof, c'est une vocation. On a envie d'enseigner des choses aux gens. C'est pas juste histoire d'avoir une demi-classe, enfin.
Mais donc,
Alex,
c'était quand même un professionnel de la matière, Blanquer.
Oui, oui, mais oui. Il s'est foiré. Il s'est foiré. Blanquer a fait n'importe quoi. Et alors, voilà, les gens disent ça nous inquiète. Les profs disent ça nous inquiète parce que le programme n'est pas fini. Voilà, et qu'il va y avoir des manques pour la rentrée dans l'enseignement supérieur. Déjà que certains jeunes n'étaient pas bien.
Excusez-moi,
bien fin, mais...
c'est l'éducation belge, donc on est assez cons.
C'est vrai.
On fait les concours à la fin. Oui. Mais si par exemple, dans le questionnaire du mois de mars, qui est donc l'examen, on pose une question sur la matière vue, par exemple, en mai, comment on fait ?
Ben c'est pas possible. C'est pour ça que...
Et ça, par exemple, il n'y a pas quelqu'un qui l'a dit à Jean-Michel ?
Et ben non. Ah, c'est pour ça que le cursus de formation, du coup, va de septembre à février, et c'est une année très très courte. Alors, il reste des petites matières à passer, hein. Attention. Ah, voilà. Mais en gros, ceux qui ont cartonné sur leur spécialité savent que le bac, c'est bon.
Ils peuvent faire très mauvais. En philo, si vous faites très mauvais en maths, vous passez quand même ?
Voilà. C'est compliqué maintenant, parce que ça a changé. Mmh. Mais en tout cas, moi, à l'époque, il y a très longtemps...
Si vous faites 4 sur 20 en maths, vous passez, alors si vous avez, par exemple, 15 en philo, en bac.
Ah bah oui, par rapport au... Mais alors, le bac, elle n'existe plus, en plus.
Très compliqué.
Bien sûr, par rapport au coefficient, bien sûr. D'accord. Moi qui étais en littéraire, il fallait juste que je cartonne en philo, en français et en langue, et c'était bon.
On vous demande pas un score... Parce que nous, on nous demandait quand même 10 sur 20 dans les matières.
Ah non, pas du tout.
Ah d'accord.
Pas du tout.
Vous pouvez passer complètement à travers.
Non, bien sûr. Si vous avez 16 dans toutes les matières... En fait, on fait des choix. Moi, j'ai choisi de pas travailler les maths, par exemple. Je pense que j'ai eu 4 ou 5, mais j'ai compensé par autre chose, à l'époque. Voilà.
Et on vous laisse passer à 4 ou 5 en maths.
Bah, évidemment.
Bien sûr.
Mais évidemment.
Alors, j'ai eu 6 en maths P.
Excusez-moi de reprendre tout depuis le début. Si, par exemple, le ministère de l'Éducation m'écoute, c'est pas la bonne méthode.
Alors, je crois qu'il ne vous écoute pas.
Alors,
oui. Voilà. Sinon, on n'aurait pas eu Jean-Michel Blanquer. Hein.
Non, mais sérieusement. Non, mais parce que, c'est-à-dire que nous, quand on faisait un 4, ça peut arriver.
Vous parlez de quoi ? De la Belgique ?
Oui, de la Belgique. D'accord. Vous pouviez passer, moyennant à l'examen de passage en septembre. Vous faisiez des maths tout l'été, pour être sûr, parce que le ratiez, vous redoubliez.
Pape Ndiaye, l'actuel ministre de l'Éducation nationale qui reprend le dossier, est un petit peu embêté. Il a tapé des points sur la table, les deux points. Il a dit, dans une interview accordée au Figaro, les élèves qui ne viennent plus en se disant « je suis tranquille » font un mauvais calcul s'ils pensent que leur travail et leur assiduité n'auront aucune incidence sur leur bulletin scolaire. Donc il n'est pas content. Alors, et c'est vrai que Pape Ndiaye, il fait peur.
Ouais.
Ah bah, il fait peur. Oui. Il est très effrayant.
Il s'énerve,
autant qu'un chihuahua anémique, mais en tout cas, voilà, il fait peur. Voilà, le bac, c'est un peu compliqué en ce moment.
J'ai envie de vous dire, c'est brillant. Pour un type qui vient de découvrir le système français, là...
Et voilà.
Eh bien, c'est bien rigolo à réécouter tout ça. On va se choisir un invité qu'on a beaucoup aimé pour la partie 2, et ce sera Nota Bene, le spécialiste youtubeur histoire, star du web. On peut se le dire. De toute façon, les stars sont dans pastel.
Très intéressant.
Très intéressant. Je ne vous le fais pas dire, mais avant ça, on s'écoute un peu de musique.
Oui, est-ce que vous aimez Jean-Pierre ?
Oui.
Non ? Eh bien, on va écouter Hervé à la place. Tout ira mieux demain, c'est le titre.
J'aurais du mal à m'étendre, j'aurais du mal, tu sais, sans mes bordels, sans nom, entre ombre et lumière. J'aurais dû porter ton nom, je plane comme un mystère. C'est pas comme la défonce, elle, j'ai su m'en défaire. Oh. Thank you.
Le samedi soir, Pasturo Vizorek, c'est Pastèque. Pastèque.
Vous êtes sur France Inter dans Pastèque en version inédit, florilège, best-of. On écoute le meilleur du meilleur et Dieu sait si ça a été difficile de choisir. Et il a fallu sélectionner un seul invité. Lulu, vous étiez d'accord car c'est vous, la star du web. Nota Bene, c'est un type important.
Ah oui, totalement.
Et il est là depuis très longtemps.
Tout à fait.
Il a un très beau recul sur les internets et sur ce qui s'y passe. Donc, on se le réécoute. Vous nous l'avez réclamé depuis longtemps, c'est quand même une des grandes stars des internets. Si, c'est vous, hein?
Je sais pas. J'ai du mal à croire qu'on me réclame.
Je sais. Vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes le Stéphane Bern de YouTube. Alors, je vais vous saluer. Bonjour, le Laurent Dodge 2.0.
Ah, ça fait plaisir, merci. c'est fort agréable.
Qui s'agit-il, Tanguy Pastou?
Eh bien, on reçoit Benjamin Brio, alias Nota Bene, YouTuber spécialiste d'histoire et de mythologie avec sa chaîne célèbre Nota Bene.
Oui, Nota Bene, vous êtes un vieux de YouTube maintenant.
Ah, je commence, ça fait presque 10 ans,
mais
ça fait 9 ans
ouais.
que je suis sur YouTube. Ouais.
Et donc vous avez vu l'évolution des choses. On est une émission où ça parle beaucoup de justement des notoriétés faites par le web. On a reçu des gens qui ont commencé très tôt comme vous, d'autres qui sont arrivés plus tard. C'est intéressant d'avoir votre regard sur les 10 ans écoulés sur ces plateformes-là, parce que maintenant, bon, sur YouTube, vous avez énormément d'abonnés, plus de 2 millions, mais après, vous avez pris le pli des autres réseaux sociaux qui se sont ajoutés.
Ouais, c'est là qu'on se sent vieux aussi, parce qu'il y a pas longtemps, je me suis lancé sur Snapchat, je peux vous dire que j'ai ouvert l'application, je me suis dit je suis trop vieux pour ces conneries.
Mais TikTok, ça marche bien pour vous aussi?
Ah, TikTok, ça marche plutôt bien. Ouais. Et puis c'est des formats qui sont assez intéressants. Alors il y a forcément les biais des formats un peu verticaux que tu passes comme ça, et puis tu n'arrives pas à te coucher, tu consommes pendant 2 heures, t'as rien retenu. Mais il y a quand même des choses à faire.
Mais le t'as rien retenu, ça c'est quand même important pour vous, parce que si vous avez commencé à faire de l'histoire, de la vulgarisation historique sur Internet, c'est parce que vous vouliez quand même que les gens aient envie d'aimer et retiennent des choses. Donc comment vous vous y prenez justement avec ces médias typiquement TikTok où ça va très vite?
TikTok, en fait, les choses évoluent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancé, on était plutôt sur des formats très courts. C'est 10-15 secondes, tu passes à autre chose et puis c'est fini. De plus en plus, ils poussent des formats qui sont plus longs, 3 minutes, 4 minutes. Et globalement, moi,
c'est l'algorithme qui
m'y rend. Ouais, clairement, je le vois moi aussi. On fait des vidéos qui sont un peu plus longues et c'est celles qui ressortent le plus. Quoi. Donc on prend le temps quand même de dire les choses et on a plus de réactions, il y a un peu plus de réflexion. Donc j'ai l'espoir, naïf peut-être, que ça fasse passer un peu plus d'infos. Après, faut le prendre pour ce que c'est aussi, c'est-à-dire que moi, TikTok, j'en fais pas une plateforme en me disant c'est grâce à ça que on va apporter le savoir à l'humanité. Non, clairement pas. C'est une première marche vers une curiosité, puis peut-être que si l'histoire plaît, on passera à autre chose après, une vidéo YouTube, une conférence, un podcast.
Mais est-ce qu'on peut dire que l'histoire nous intéresse pas? Il y a des gens qui vous disent ça? Non.
Non, globalement, c'est toujours intéressant parce que ça nous renvoie à tout un imaginaire aussi, à une éducation qu'on a pu recevoir. Après, il y a des affinités envers l'histoire. Moi, j'étais pas un grand passionné d'histoire quand j'étais gamin parce que j'ai pas grandi dans une famille où l'histoire avait une place forcément très importante. Moi, l'histoire, je m'y suis mis grâce aux jeux vidéo. Hein. Je jouais à Medieval Total War. J'en voyais, mais voilà, j'étais la France. J'ai conquis toute l'Europe assez facilement.
Vrai, c'est moi. D'autres ont essayé.
D'autres ont essayé, ils ont pas réussi. Et du coup, c'est grâce à ça que je me suis mis à l'histoire, en fait.
Et donc, tout ça pour en arriver aujourd'hui, et enfin, c'est pas votre premier livre, parce que justement, à un moment, vous dites aussi, il y a peut-être des gens qui vont pas aller me chercher sur ces réseaux-là, et qui seront contents de m'avoir en livre, et c'est pour ça que vous êtes là. Chez Talendier, vous publiez « Mais c'est un complot », Benjamin Brio et Stéphane Genet, « Conspiration, intrigue et coup fourré dans l'histoire ». À nouveau, vous nous faites entrer par le biais de... On a envie de savoir si oui ou non c'est des complots ou pas des complots. Vous essayez quand même, au-delà de nous divertir, de rendre la chose presque romanesque.
Eh bien oui, mais ça c'est vendeur, c'est ce qu'on appelle le putaclic sur YouTube.
Non, mais
putaclic, maintenant je suis le libraire.
Putaclic pour la bonne cause quelque part quand
oui,
même.
Oui, non mais tout à fait, il faut que ça soit au service du propos. En fait, c'est un bouquin où c'est complot ou non complot, c'est un prétexte à découvrir l'histoire, des contextes historiques, des personnages.
Oui, ça va de l'Égypte ancienne à Pinochet, donc t'en dire très, très large, et encore plus récent d'ailleurs. Bah, moi, il y en a un qui m'a intrigué. Peste noire, virgule, un complot, point d'interrogation.
C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la sphère médiatique, le complot, ça évoque plein de choses qui sont relativement diverses. Il y a les complots, il y a les théories du complot, il y a effectivement des coups, on se dit, est-ce que ça c'est un complot, est-ce que c'est caché ou pas. Mais bref, sous l'appellation complot, il y a énormément de choses qu'on regroupe. Et c'est ce qu'on voulait montrer un petit peu dans le livre. C'est que le complot, c'est très pluriel, et aussi c'est compliqué à mettre en place. Hein. Souvent, le complot, c'est un échec. voilà. Là, en l'occurrence, pour la peste, on voulait montrer que quand il y a un événement absolument terrible qui débarque comme ça, on cherche forcément des responsables, c'est plus facile. Et donc forcément, une partie des responsables...
Le pangolin, comme d'hab,
et les juifs. Parce que bon,
souvent, ça revient.
Le pangolin juif, ils prennent cher.
Ah oui, ils rasent les murs. Ouais. Pouvoir montrer que déjà, il y a 700, 800 ans, il y avait ces mécaniques-là qui étaient à l'œuvre, pour moi, ça aide à comprendre un petit peu mieux ce qui se peut jouer de nos jours. C'est compliqué d'aller convaincre des gens en allant leur dire frontalement « vous avez tort parce que ». En revanche, créer un contenu qui va pouvoir mettre en perspective, peut-être que ça ne va pas convaincre tout de suite, mais en tout cas, ça met dans un climat qui est plus propice au dialogue. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on manque aussi énormément. Autour de la notion de complot, il y a un affrontement très très dur et il y a de moins en moins de dialogue. Et c'est ça aussi que je regrette, parce que finalement, tous à notre échelle, on est un peu complotiste en fait. Il y a des nuances de complotisme. On a tous pu croire à des trucs, une petite fake news, ben voilà, on l'a cru, on a été berné pendant un moment donné. On a fait partie de cette petite échelle du complotisme en se disant ah oui, il s'est passé ça parce que, et puis bon, on a pu prendre un petit peu de recul. Donc il faut, je pense, peut-être être un peu moins dur et essayer d'ouvrir un dialogue. Mais c'est vrai que c'est très compliqué et certaines personnes sont totalement enfermé dans des schémas, et honnêtement, j'ai pas la solution. C'est très compliqué. Donc, à notre échelle, on essaye de produire du contenu pour créer cette mise en perspective, mais c'est pas une solution miracle non plus.
Je voudrais qu'on écoute, parce que peut-être il y a des gens qui ne vous connaîtraient pas encore avant de rejoindre vos chaînes YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, même Snapchat apparemment.
Oui, oui.
Écoutons ce que ça donne, Benjamin Brio, Nota Bene.
Mes chers camarades, bien le bonjour.
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 Aujourd'hui, on va parler de pape. Vous savez, ces mecs avec ces longues capes de Superman qui se baladent en papa mobile et qu'on laisse une vingtaine de jours au soleil une fois qu'ils ont passé l'arme à gauche.
Le miroir du foutre, œuvre anonyme du XIVe siècle, est considéré comme le Kama Sutra catalan.
Quand le sphinx a-t-il perdu son nez? Eh ben, accrochez-vous parce qu'on va démêler tout ça aujourd'hui.
Aujourd'hui, on va parler mode, parce que la mode, ça fait aussi partie de l'histoire. Alors, je sens déjà tous les petits pervers qui ont cliqué sur la vidéo en mode « Chouette, on va voir des boobs !» Alors, certes, on va peut-être voir quelques poitrines, de loin, mais le plus intéressant vraiment dans l'histoire du décolleté, ça n'est absolument pas ça, vous allez le voir.
Votre légitimité, comme vous dites, vous n'êtes pas doctorant en histoire, vous êtes passionné et justement vous recoupez les sources, vous travaillez de manière très proche avec eux.
Ah bah oui, puisque depuis 2017-2018, j'ai entamé un virage en fait de production où aujourd'hui c'est écrit par des historiens, des archéologues. Moi je vais commander des piges, tout simplement, comme à la radio, dans les magazines, et puis après je vais le remettre à ma sauce, je vais reformuler, je vais le mettre en scène pour que ça soit du Nota Bene avec le ton Nota Bene, bien sûr en renvoyant ça aux auteurs pour être sûr qu'on raconte pas des conneries ou qu'on a mal interprété, voilà. même si ça peut arriver.
C'est le moment du quiz,
évidemment.
Tanguy Pastion.
On pouvait pas passer à côté d'un quiz sur les complots, alors comme c'est le sujet central de votre livre, gardez vos réponses en dernier recours pour venir en aide aux pastèques.
Si on trouve pas.
S'ils ont du mal à deviner, voilà. Alors, je vais vous citer des complots, vous allez me dire de quoi il s'agit à peu près. Attention, je serais mort le 9 novembre 1966 dans un accident de voiture et aurais été remplacé par un sosie. Un des indices de mon soi-disant décès, le morceau Revolution, qui s'il est joué à l'envers, laisse entendre « He hit a pole, better get him to see a surgeon ». Il a percuté un poteau, il faut l'emmener chez un médecin.
C'est un chanteur.
Oui, c'est donc le complot autour, la théorie du complot des Beatles autour de la soi-disant mort de Paul McCartney.
D'accord.
Ah, oui, je pensais qu'il était
énormément de gens.
Je pense qu'en
66, Paul McCartney a été remplacé par un sosie. Et d'ailleurs, vous savez, sur l'album des Abbey Road, où on voit les Beatles traverser, il se trouve que Paul McCartney est pieds nus. Il s'intéressait fort à Alain Douiz à ce moment-là, et ils disent que ça représente l'entrée vers la mort d'être pieds nus à ce moment-là.
Tu sais que Avril Lavigne a eu le même destin.
Ah, je ne savais pas.
Ah, si, elle a été remplacée aussi. Ouais.
D'accord.
Ah, ouais, elle est morte.
C'est à peu près sûr.
Ouais, ouais.
Par Bruno Mars. Attention, rappelons que Faudel non plus n'est pas mort. mort, il fait juste une grosse pause. Attention, si je vous dis absence d'étoiles sur les photographies officielles, drapeau qui n'est pas censé flotter, des plans tournés par Stanley Kubrick après le réalisme de ses effets spéciaux dans 2001, l'Odyssée de l'espace, vous me dites ?
La conquête de l'espace.
Voilà, le canular lunaire ou la théorie du complot des premiers pas sur la Lune. Voilà, moi aussi ça m'a semblé suspect. Un trois hommes présents sur la mission lunaire, pas un qui dessine un zob dans le sable. Retour en France, le soir du 22 août 1962, je suis en voiture à bord de la plus belle des DS, la présidentielle, avec ma femme, mon gendre et mon chauffeur.
Quand le petit Clamart.
Bravo Lulu. Quand soudain un commando des membres de l'OAS nous prennent en embuscade et nous mitraillent, il y avait des trous partout dans la bagnole et Carglass n'existait pas. La galère. Je suis l'attentat du petit Clamart, la tentative d'assassinat sur le général De Gaulle. Attention, je suis cette politique un poil parano qui a ébranlé les USA dans les années 50, époque où une véritable chasse aux sorcières. Bravo Alex. Une véritable chasse aux sorcières est menée contre de soi-disant espions communistes infiltrés au sein du département fédéral. Je suis le McCarthyisme, la politique anticommuniste mise en place aux États-Unis par le sénateur républicain Joseph McCarthy. Voilà, rappelons qu'il reste aujourd'hui un seul communiste, Fabien Roussel.
Et même les communistes vous diraient que
qu'il n'est pas communiste. Attention, on remonte dans le temps pour se rendre à Versailles, le Airbnb de Stephen Bern. C'est la psychose à la cour de Louis XIV. Des morts suspectes se multiplient tandis que des poudres vertus douteuses circulent sous le manteau des courtisans. Je suis l'affaire.
L'affaire des poisons.
Poisons,
ouais. 1679-1682.
Il y a les poisons.
Ouais.
Apparemment, je ne me serais pas suicidé, mais j'aurais fui au Brésil afin d'y passer une retraite paisible. Non, ce n'est pas Mike Brandt.
Je suis déçu, j'aimerais bien qu'il revienne.
Non.
Ce sont les bottes en cuir, ça.
Voilà, oui, c'est ça. Avant de décéder au Brésil tranquillement en 1984, à l'âge de 95 ans, le corps agité d'un dernier spasme qui me fait tendre le bras droit, je suis les rumeurs selon lesquelles Hitler ne serait pas mort.
Il y a quand même des gens qui ont dit Elvis dans le chat.
Mais en fait, quand t'as parlé des bottes en cuir, je me suis dit, Elvis. Non,
c'est d'autres bottes en cuir. Non. C'est un autre cuir.
C'est pas mal, ça. C'est drôle. C'est ce que les rockers et les nazis partagent. Voilà.
25 complots de l'histoire et on saura si oui ou non. Ce sont des complots. Il y a du suspense, il y a de l'histoire. On apprend des choses comme sur votre chaîne. Donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Mais il y a tellement de monde. Je crois qu'il y a de moins en moins de Français qui ne le sont pas. Mais TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et Twitch, évidemment. Et oui. Merci d'être venu. Sur notre chaîne, celle
merci pour
de France Inter.
Merci beaucoup.
À bientôt. On s'écoute un peu de musique et après, évidemment, l'histoire continue son cours avec notre fameuse revue de presse. Mais avant ça, on écoute.
Alex, c'est ce que vous aimez, le heavy metal. Eh ben, on va pas en passer parce qu'on va écouter Arlo Parks avec Impurities. Already, like a star, like a star.
France Inter le samedi soir, Pasturo Vizorek, c'est Pastèque. Pastèque.
Vous êtes sur France Inter et c'est la dernière ligne droite de l'émission Pastèque, évidemment, la fameuse, la tant attendue, l'irremplaçable revue de presse.
Est-ce que vous n'en faites pas un petit peu trop? En fait, c'est la question que je pose.
Moi-même, j'ai senti le dernier adjectif n'est pas arrivé.
Non, 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 ça fait trop. Les gens vont trop attendre. Alors, Closer m'apprend, je suis stupéfait, que le Mercato Radio a commencé cette année. C'est énorme.
Vous allez où, vous?
On est nul. On est nul en Mercato, mais Alex. Non. Puisque le meilleur, le seul bon, en fait, c'est Pascal Pro.
Ah, merde.
Parce que Pascal Pro va quitter RTL la fin de la saison, en juin, après 11 ans, quand même, passé RTL. Donc, on refait le match. Puis ensuite, il est passé aux Auditeurs ont la parole. Et il rejoint Europe 1, qui fait partie du même groupe, c'est-à-dire le groupe Bolloré. Donc, logique de groupe.
C'est Bolloré qui lui a bien expliqué qu'il fallait.
Et là, il dispose quand même, selon nos informations, dit Closer,
un gros chiffre,
d'un contrat en or, soit 1 million d'euros de salaire par an. C'est-à-dire que là, on réalise qu'il y a deux écoles. L'école Pascal Pro et l'école de tous les autres gens de radio qui, en fait, n'ont pas su négocier leur contrat ou n'ont pas quelqu'un en face d'eux qui leur dit « Écoute, c'est un million ».
Mais pour un million, il fait la télé aussi, c'est un package.
Alors, pour un million, il fait tout. C'est-à-dire que si on lui demande à un moment de faire sauter la ceinture... Écoutez, je ne sais pas, mais pour un million... Non, je crois que c'est radio. On parle d'un contrat radio. Dans sa nouvelle radio, il disposera d'un contrat en or, l'équivalent d'un million d'euros de salaire par an. Un euro, c'est nous, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est le mieux payé de la radio française, c'est Pascal Pro. Ça fait quand même mal.
Sur une des radios les moins écoutées, l'instant. Alors, on ne sait jamais. Un grand retour de Pascal, les gens se disent, mais on a envie de l'entendre.
Alex, avez-vous de l'inédit?
Mauvaise nouvelle pour tous les auditeurs de France Inter de moins de 30 ans. C'est Slate qui nous le dit. Désolé, le cannabis ne vous rend pas plus créatif. Le Washington Post a publié les résultats d'une étude qui tend à démontrer que la marijuana ne rend pas ses consommateurs plus créatifs. Alors comment ils ont fait? C'est amusant. Ils ont mis une centaine de personnes, ils ont fait deux équipes, deux groupes, ceux qui fument et ceux qui ne fument pas. Et ils les ont mis devant une brique, un parpaing, en leur demandant qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça.
C'est assez rigolo.
Et en fait, ils n'ont pas eu des meilleures idées, les fumeurs, que les autres.
Ils ont dit quoi, une petite cabane à jardin?
Mais là, il y a des gens, et ça c'est compliqué, il y a des gens qui devaient juger la qualité de l'idée, à mon avis. C'est pas tellement plus créatif quand on a fumé que non. En revanche, ils ont pu noter que les fumeurs pensaient que les idées étaient plus innovantes, mais pas que les leurs. Ton idée, Jean-Pierre, du parpaing, est super.
Ça ressemble aux gens qui ont bu un coup.
Oui, c'est plus des gens qui ont bu un coup.
Ça donne à peu près ça en matière de créativité. Donc,
est-ce que les gens qui prennent de la 3MC ont essayé de faire du chemsex avec le parpaing?
Je crois que les scientifiques ne sont pas allés jusque-là, mais je vous promets de suivre le dossier. C'est donc une idée fausse, sachez-le. D'accord. Donc ne vous droguez pas. Mais créé, bien entendu.
Oui, sans drogue.
Avec ce que vous avez en main, je vais vous laisser finir tout seul.
J'ai effectivement le magazine. Alors, le magazine à ne pas acheter si vous êtes d'humeur maussade. Ce n'est pas un magazine feel good. C'est Chronique Criminelle, les dossiers de Chronique Criminelle, avec Jacques Pradel.
Je l'ai vu.
Estelle, l'innocente et les diaboliques, Estelle Mouzin, Michel Fourniret, en couverture. Mais moi, je suis allé voir une histoire stupéfiante, une histoire effrayante, la Maison de l'Horreur. La Maison de l'Horreur est située au 284 Green Street à Enfield, en Angleterre. 31 août 77, Peggy Hoxton se trouve dans sa maison. Puisqu'elle élève seule ses quatre enfants, Margaret, Janet, Johnny et Billy. Et vers 21h, elle entend à l'étage le bruit d'un meuble qu'on déplace. Puis elle entend ses deux filles hurler.
Mais non.
Qu'est-ce qu'elle fait Tipa? Elle monte en disant ces connasses sont en train de bouger la commode alors qu'elle devrait dormir. Eh bien, pas du tout. Elle voit le fauteuil se soulever d'environ un centimètre et glisser vers la droite sur un peu plus d'un mètre avant de s'arrêter pendant que ses filles dorment. C'est-à-dire que le meuble, à ce moment-là...
Bouge tout seul.
Tenez-vous bien, bouge tout seul.
Mais non.
Bouge tout seul. Voilà. Alors, on se dit, c'est
Fabrice
une Anglaise.
Drouel, calmez-vous.
C'est une Anglaise. N'aurait-elle pas bu avant?
Oui.
Eh bien non, elle dit qu'elle était sobre. Elle dit qu'elle était sobre. Le seul jour où j'étais sobre, dit-elle. C'est arrivé. Là, il demande quand même à une médium de venir à Nichot.
Et soudain, dans les meubles mouvants.
Soudain, la médium à Nichot se met à hurler « Allez-vous-en !» avant d'éclater d'un ricanement grotesque et abject. Puisqu'en fait, elle est habituée. Ensuite, ils partent à la mer, les Hoxton, puisqu'ils sont fatigués. Hein, tout ça, les meubles qui bougent et tout. Ils se disent « Bon, on a droit notre RTT. Et puis, un soir, Maurice Gross, qui est un autre spécialiste du paranormal, qu'ils ont appelé puisqu'ils reviennent de la mer. À la mer, tout se passe bien.
Ça bouge pas.
Et là, Maurice Gross, le spécialiste du paranormal, il est là, il est posé dans le salon, et d'un coup, il entend « Allez vous faire foutre !» Tirez-vous, c'est la voix d'un vieil homme. Le son émane de Janet, la mère de famille. Vous voyez, elle arrive à parler comme le père Fouras, en disant « Cassez-vous les bolos ». Et la voix dit s'appelait Bill. Il a autrefois habité la maison avec son chien, Gober, et il est mort au salon. Voilà, il s'est réveillé au cimetière et là, il a eu envie de revenir à la maison. Parce qu'il n'était pas bien au cimetière. Voilà. Là, on voit Janet, la mère de famille, en lévitation.
Mon Dieu.
Dans sa chambre.
Pas, hein.
Oui, parce qu'elle a quitté le sol à un moment. Elle s'est levée 3-4 mètres. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure...
Il
n'y avait pas l'intelligence artificielle en 71. Donc, soit elle était vraiment en lévitation, soit ils l'ont suspendue grâce à des poulies à un fil de pêche. Mais je ne sais pas comment ils ont réalisé cette image. Tout ça est très, très troublant. Très troublant. À Noël, ça a recommencé. L'arbre de Noël a traversé la pièce. Il est allé s'écraser contre le mur. C'est horrible. Horrible. Et puis, personne n'a jamais vraiment compris. Alors, c'était le fantôme de cette maison, bien sûr.
Elle a déménagé, non ?
Et regardez, il y a une photo extraordinaire. On voit l'oreiller flotter au-dessus du sol dans la famille des deux sœurs. Ils ont fini par déménager au bout de 8 mois. Moi, je serais parti le lendemain. Je vais dans mon oreiller flotte. Je me dis, j'ai besoin de mon oreiller pour dormir, d'accord. J'ai l'âge que j'ai. Et alors, figurez-vous qu'il y a eu un film après, Conjuring. Et même le film porte malheur, nous dit Affaire criminelle, décès d'un spectateur indien de 65 ans pendant la projection, le 16 juin 2016. Donc, méfiez-vous de Chroniques criminelles parce que c'est un magazine anxiogène.
Oui.
Pastèque, c'est terminé, les amis.
Oui.
Merci beaucoup de nous avoir suivis.
J'achèterai pas le magazine, nous dit Karanoya.
Eh ben voilà quelqu'un qui, à mon avis,
ça résume bien l'émission.
Oui.
C'est l'émission dont on n'a pas envie d'acheter. Tout
c'est
ce
pas vrai. Il y a Matoucha. Les ventes, à mon avis, ont décollé.
Faudrait vérifier.
Merci Lulu de nous avoir accompagnés. Merci au Pastèque d'avoir été vif, pertinent et drôle. Il y a eu du jeu de mots.
Oh oui.
Peut-être trop de jeux de mots. On ne sert plus à rien. Tanguy Pastureau, merci infiniment.
Merci
à toute l'équipe qui prépare avec talent et application cette émission. Mathilde Sourd, évidemment, à la réalisation, Laurent Polleret, choix musicaux, Thierry Dupin, à la vidéo, Rémi Sistiaga, au son, Marie Potier. Merci infiniment et je vous dis à la semaine prochaine, les pastèques.
Au revoir.